Ce podcast vous est proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente
Réseau à la Une.
Réseau à la Une, le podcast. Analyse, décryptage et diagnostic des enseignes.
Bonjour à tous, bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du Réseau à la Une. Je suis Nicolas Monnier, journaliste pour l'officiel de la franchise et je suis épaulé par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management.
Réseau à la Une.
Réseau à la Une. Le podcast.
Sylvain, avec votre cabinet Franchise Management, donc, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine et à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble de ses documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau, indice créé pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernant la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons donc aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Labattu, président de l'enseigne Turbofonte. Messieurs, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Pour commencer, Sylvain, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la notation d'ensemble de l'enseigne Turbofonte et quels sont les points forts qui ressortent des documents juridiques que nous ont fournis l'enseigne ?
Alors, on a une évaluation globale qui est à 73%, 78% pour le DIP et 68% pour le contrat. Et le principal point fort, c'est qu'on a des documents qui, sur le plan juridique, répondent à toutes les contraintes légales. Donc, on a des documents qui sont conformes sur le plan juridique.
Dans votre analyse, Sylvain, vous précisez néanmoins que l'ensemble documentaire, s'il est irréprochable, vous insistez sur le fait que l'enseigne peine un peu à se mettre en valeur, tant sur ses réussites que sur ses équipes. C'est vrai ?
Oui, en fait, on a des documents qui ont été traités d'un point de vue strictement juridique. Donc, ils sont très bien faits sur le plan juridique, mais parfois, ils sont un peu austères. Et puis, il manque le sens pour permettre de comprendre. Je prends un exemple concret, c'est qu'on a reçu une succession de documents, mais en fait, dans le DIP, il y a des annexes, mais après, les documents qu'on a reçus à côté, il n'y a pas les renvois d'annexes. Donc, on a supposé que les liens étaient bons, mais tout ça fait que c'est un peu compliqué. Voilà. On se retrouve avec des documents qui sont annexés au DIP, qui sont intéressants, mais qui sont très, très austères et pas simples à lire, quoi. Donc, si je me place d'un point de vue candidat, je dis, voilà, sur le fond, il n'y a pas de sujet. Le point de progrès, il est vraiment sur la forme, l'accessibilité, la simplicité des documents et puis la pédagogie pour pouvoir mettre du sens et comprendre d'un point de vue, je ne suis pas entrepreneur, je suis salarié, je souhaite devenir entrepreneur. Donc, il y a deux mondes que je ne comprends pas, c'est le monde de l'entrepreneuriat souvent quand je veux devenir chef d'entreprise dans un réseau. Puis d'autre part, il y a le monde des réseaux que je ne comprends pas forcément parce que je ne suis pas issu du monde de la franchise. Et donc, déjà, comprendre ce qu'est un DIP, ce n'est pas simple, mais comprendre comment l'utiliser et comment utiliser les informations qui sont à l'intérieur, ce n'est pas simple non plus.
Marc, est-ce que vous souhaitez réagir à cette analyse ?
Oui, parce qu'en fait, c'était l'intérêt de soumettre notre concept. C'était justement pour avoir des retours d'experts. Je dois dire que je pense que c'est un fruit d'un travail au départ très juridique. On a été accompagné par un avocat et on a voulu... pouvoir satisfaire toutes les demandes et toutes les requêtes. Et aujourd'hui, je rejoins Sylvain dans... C'est bien, mais le but, c'est que ça donne de vraies informations aux candidats, qu'il ait plaisir à les lire, que ce soit informatif, que ce soit fluide, puisque on a tout intérêt à le faire, puisque c'est son argent, il change souvent de métier, il se reconvertit, donc plus il a d'éléments qui l'aident à comprendre. Parce qu'en fait, on peut tout lui annoncer. Ce qu'il a besoin, c'est lui-même de comprendre et se dire, j'y crois, je comprends ce marché, je pense que je vais pouvoir en faire quelque chose. Donc, ça me fait dire, c'est pour ça que je prenais des notes là. Je pense en effet, il faut qu'on travaille là-dessus.
Sylvain, dans le contrat, sur la partie contrat, vous dites que l'enseigne a fait le choix de la concession. Que ce choix est bien structuré, mais qu'il mériterait d'être légèrement complété et densifié. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes ?
Alors, encore une fois, le document est bien fait sur le plan strictement juridique. Après, il y a des sujets qu'il faut densifier dans le contrat. En fait, c'est aussi mettre du sens. et expliquer le pourquoi. Quand je lis un contrat, il faut que je comprenne la logique en fait contractuelle de la relation, comment elle va évoluer dans le temps, comment elle va se mettre à jour et le pourquoi de ces clauses. Exemple, il y a une clause de quantité minimale qui est sur 5 ans. Alors sur 5 ans, c'est peut-être un peu long compte tenu des contextes actuels et puis qui peut entraîner la résiliation de plein droit du contrat. C'est des choses qu'il faut quand même plus, je pense, formuler pour que ce ne soit pas anxiogène pour les candidats qui comprennent le sens et qui comprennent le pourquoi. Idem sur les clauses de tacite reconduction. Il faut à un moment donné les densifier pour que, au-delà de la logique pure d'application contractuelle de la relation, il y ait une explication du sens et puis aussi une explication des rouages, comment ça se met en place. Je ne suis pas certain que sur des bons adhérents, concessionnaires, qui ne remplissent pas tout à fait leurs objectifs à 5 ans, on déclenche, voilà. Et à un moment donné, il y a peut-être une graduation, une logique, un sens, ou peut-être la rendre un peu moins longue dans le temps, cette clause. Voilà. Donc je pense qu'encore une fois, c'est une très bonne application purement juridique des choses. Mais si on le relie avec le regard du manager, du dirigeant de réseau, on se dit, ah, des fois, on va peut-être un petit peu brut de décoffrage. Voilà.
Marc, quel est votre sentiment ?
Oui, là-dessus, en fait, c'est lorsqu'on rencontre le candidat qu'on explique plus en détail, par exemple, les quotas. Les quotas, en réalité, ils sont faibles, dans le sens où, je ne les ai pas sous les yeux, mais on doit être dans des quotas autour de 100 000 euros d'achat. Ce qui veut dire le ratio, c'est 100 000 euros d'achat chez nous, ça correspond à 260 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui correspond, normalement, à un concessionnaire, au bout de 3-4 ans, il est plutôt autour des 800 000. Donc, c'est des quotas très bas, justement, qu'on explique bas pour dire le but n'est pas de vous pousser chaque année à surinvestir, à recruter. Et parce que, en fait, on explique, Turbofond, c'est une entreprise familiale, on a ce positionnement et c'est ce que Sylvain soulignait avec finesse. C'est-à-dire que dans la réalité, déjà un candidat qui ne ferait pas les quotas, on ne se précipite pas pour le sortir du réseau parce que ça ne se trouve pas comme ça. C'est très dur à monter. Et nous, en réalité, les quotas sont bas. Donc, c'est celui qui arrive à ces chiffres-là, il n'est pas loin de la banqueroute. Donc, c'est juste plutôt pour nous un aspect symbolique, comment on fait de l'exclusivité réciproque en disant on vous laisse un secteur. Mais il va falloir l'exploiter. C'est surtout ça l'idée.
Sylvain, votre regard, sinon, sur le réseau, sur certains points, est-ce qu'il y a des... Parce que je lisais dans le contrat, vous parlez notamment de la clause de propriété intellectuelle, vous avez évoqué la durée maximum de la relation contractuelle. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont titillé, entre guillemets ?
Il y a des éléments liés à Internet hein, qui sont importants parce que là ils sont à challenger avec la réglementation en vigueur et puis il y a des éléments qui ont évolué dans le temps notamment tout ce qui est lié au RGPD qu'il faut mettre à jour par rapport à votre contrat actuel et puis aussi la logique d'animation et de vie des réseaux sociaux. C'est des éléments qu'on retrouve généralement dans les contrats et sur les nouvelles matrices de contrats et qui, sur ce contrat-là, ne se retrouvent pas. Donc, je pense que ça vaut la peine de reprendre le contrat, de refaire une passe avec votre avocat en se disant, bon, aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours au goût du jour ou pas ? Parce que le sujet des réseaux sociaux, c'est un sujet qui est quand même très cristallisant dans les réseaux et puis qui demande de bien définir qui fait quoi dans le dispositif et puis parfois qui peut vous parasiter, quoi. Donc, c'est des points importants. Le RGPD, c'est quelque chose qui est récent. Donc, qui aujourd'hui rentre dans les dernières moutures de contrat et donc qui nécessite d'être mis à jour.
Marc ?
Oui, sur Internet, c'est vrai qu'on a cette restriction de vente en ligne, mais qui est très soutenue par l'ensemble du réseau puisque le but, c'est d'avoir une cohérence de prix, de marché, d'avoir une vraie exclusivité. Ils ne le visent pas du tout comme une contrainte. Et puis légalement, on est dans les clous, on a eu déjà des contrôles de la répression des fraudes, parce qu'en fait, nos produits n'est pas juste une négospire, puisque toujours dans la notion de vente en ligne, c'est vrai qu'elle met un peu en branle la notion de secteur, dans le sens où il dit, à partir du moment où un client vient de façon passive à un site de vente en ligne, eh bien en fait, il n'y a pas de violation d'une exclusivité de secteur. Mais en réalité, nous, en fait, on fait pas de vente puisque la gestion de projet avec de l'installation. Donc, naturellement, nos concessionnaires vont travailler sur un rayon de 30 ou 40 km. Donc, le sujet se pose pas. Sur la RGPD, si, je suis en train de me dire, autant on s'est bien calé sur nos contrats de travail et les relations avec nos fournisseurs, autant en effet, on l'a pas du tout calé avec notre réseau. Et c'est un sujet, évidemment, et il faut qu'on le mette en place. C'est là où on s'aperçoit qu'on a un département RH très efficace, mais il ne se doute pas des relations que l'on a contractuelles avec nos concessionnaires.
C'est souvent le cas.
Marc, vous avez fait le choix d'un contrat de concession.
Oui.
Certains experts évoquaient le fait de ne pas aller vers un contrat de franchise, mais c'était un choix assumé de votre part.
Oui, et qui est en train d'évoluer dans le sens où quand on a démarré, on était vraiment un fabricant qui concédait la vente de ses produits auprès de concessionnaires. Donc, on était vraiment stricto sensus et il y avait très peu de savoir-faire en réalité. Et tout ça s'est développé sur les 8 dernières années. C'est encore en train de s'étoffer. On est sur le début du commencement de la rédaction d'un manuel opératoire. Donc, tout ça, en effet, sent de plus en plus la franchise. Et en même temps, pour nous, c'est un sujet parce que les concessionnaires qui nous rejoignent et les actuels sont très heureux en fait de faire partie, c'est pas obligatoirement rationnel, d'un réseau de concessions et pas de franchise.
D'accord, Sylvain, votre réaction en fait sur le choix de la concession?
Bah c'est classique dans les métiers de l'artisanat. En fait, pour plusieurs raisons, c'est que au départ, moi j'ai travaillé sur pas mal d'enseignes dans l'artisanat, et il y a encore une dizaine d'années, le mot franchise, c'était un mot qui provoquait des éruptions cutanées chez la plupart des artisans, parce que pour eux, la franchise, c'est les enseignes de retail classiques, c'est la restauration rapide, etc. Et c'est absolument pas leur métier de technicien. Donc il y a cet élément-là qui fait que les enseignes dans ces métiers-là se sont plutôt orientées vers de la concession au départ, en disant on va pas mettre un mot qui fâche tout le monde en intitulé de contrat, on va faire de la concession, mais on va quand même reprendre les bons ingrédients de la franchise. Et puis, on voit ces enseignes aujourd'hui s'afficher parfois comme franchiseurs directement, parce que c'est moins crispant, notamment vis-à-vis des nouveaux candidats qui viennent. Et puis d'autre part, il y a quand même une logique nécessaire d'animation autour d'un corpus commun qui est le savoir-faire. Et ça, seule la franchise le permet, parce qu'elle sacralise le savoir-faire, elle le définit comme étant un élément commun devant être strictement répliqué par tous. Et donc, ça permet de sortir du produit et de passer du produit au concept. Donc, on voit aussi des logiques, comme vous le vivez actuellement, de se dire, bon, ben, on se pose la question de savoir si on reste sur le contrat de concession ou pas, mais on se pose surtout la question de savoir, est-ce qu'on ne définit pas un manuel opératoire, qui est notre savoir-faire commun, avec une ingénierie pédagogique autour, et puis avec une ingénierie d'animation, c'est-à-dire de contrôle de la bonne application du savoir-faire tel qu'il est décrit dans les manuels opératoires. Donc c'est plus un sujet aujourd'hui managérial, puis après cosmétique sur le contrat, parce que les contrats de concession dans l'univers des réseaux et de l'artisanat, ils sont souvent très très proches des contrats de franchise en fait. Il n'y a pas grand-chose à faire évoluer. Donc c'est plus un sujet managérial qui préoccupe les réseaux, parce qu'il faut que les agences se ressemblent, que l'argumentaire commercial soit le même, qu'on puisse avoir prise sur le traitement des clients, des prospects, la formation des équipes, etc. Et donc ça, c'est la logique savoir-faire, en fait. Mais c'est vraiment commun à votre secteur d'activité, parce que le point de départ, c'est que le mot franchise faisait peur. Et moi, je me souviens d'enseignes que j'ai accompagnées dans ce secteur où, en rencontrant des concessionnaires sur le terrain, effectivement, ils me disaient, mais on n'est surtout pas et on ne voudra jamais être franchisé. Parce qu'un franchisé, c'est un salarié. Et là, je me dis, ah, on n'a pas tout compris. Et on ne parle pas de la même chose. Voilà. Donc, c'est classique, dans votre secteur.
Marc?
Oui, c'est vrai que pour ajouter, nous, on est fabricant et donc en fait notre rémunération est basée sur la vente des produits. Donc il y a en plus pas de redevance et c'est aussi un levier de recrutement, c'est-à-dire pour une raison, C'est pour ça que je dis, je ne parle pas de rationalité. Mais des fois, on a des candidats qui disent, ah oui, j'aime bien, ce que j'aime bien chez vous, c'est qu'il n'y a pas de redevance. Et en réalité, c'est un jeu de vase communicant. C'est-à-dire que je pourrais très bien enlever, leur donner 3 points de marge en plus et puis mettre des redevances. C'est-à-dire que des fois, ça devient un peu un gros mot de façon un peu injuste. Parce que, on le sait, derrière redevance, tout dépend le service derrière. Si le service, il est superbe et qu'il rapporte 10 fois ce qu'il coûte aux franchisés, les franchisés, ils sont très heureux de payer leur redevance annuelle. Quoi.
Et Sylvain, quand j'ai fait ce papier, en fait, c'était en juin, l'enseigne comptait 42 agences et elle était portée par un marché ultra dynamique. Vous le savez, avec la crise énergétique, autant vous dire que les poêles, tout ce qui est chauffage à bois a le vent en poupe. Qu'est-ce que l'enseigne va devoir, comment dire, à quoi elle va-t-elle devoir être vigilante dans les prochains mois ou les prochaines années ?
Sur le secteur de l'amélioration de l'habitat en général, en fait, comme tous les secteurs, mais d'une manière un peu différente, la crise sanitaire et derrière la crise énergétique, en fait, a perturbé les cycles économiques. Donc, on s'est retrouvé avec des taux de croissance sur ces secteurs d'activité extrêmement forts, qui ont été très grisants au départ, hein, beaucoup de commandes prises, mais après, derrière, il faut les traiter pour pouvoir transformer les commandes en chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un vrai élément perturbant. Derrière, on a un afflux de candidats quand même qui vient parce que on a des secteurs qui semblent porteurs, mais il faut être capable de les intégrer pareil pour pouvoir gérer. Et puis, on va devoir gérer aussi des temps morts un peu plus compliqués à l'avenir parce que ces ventes-là, une fois qu'elles sont faites, elles sont faites. Hein. On ne va pas renouveler son poêle à bois tous les jours. Donc, il va falloir mettre du sens derrière tout ça en expliquant que, d'une part, ce qui s'est passé ces 2 dernières années et ce qui se retrouve dans les chiffres n'est pas forcément représentatif de ce qui se retrouvera dans les années à venir, que les cycles économiques ont été perturbés et que donc ça demande quand même d'autant plus de vigilance vis-à-vis des candidats sur le montage de leur prévisionnel et aussi la gestion de ces cycles entre le passage de commande et la réalisation, quoi. Voilà. Ça remet quand même au cœur du dispositif le suivi client parce que les retards, les délais, le surbooking de commandes fait que quand même la clé, c'est le suivi client, les techniciens et la capacité à gérer la satisfaction client dans un modèle qui est quand même très perturbé.
Marc, comment vous analysez aujourd'hui la situation actuelle que vous vivez ?
Oui, en fait, il y a plusieurs points qui sont abordés. Et un point que rappelle Sylvain, c'est qu'on est une activité cyclique, ce qui veut dire cycle. En gros, là, on est sur un haut de cycle. Donc, il va y avoir en effet d'autres phases qu'il faut savoir appréhender, préparer nos concessionnaires parce que il est beaucoup plus facile de s'adapter à cette phase-là qu'à une phase de cycle bas qui, chez nous, existera toujours. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui sont beaucoup moins cycliques, la note les plus. Donc, ça, il faut y préparer. Deux, de notre côté, on a un sujet qui est notre offre. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on fait à la fois du poêle à granulés, du poêle à bois, de la cheminée. C'est-à-dire on a différentes offres et solutions justement pour qu'on ne repose pas juste sur un levier, c'est-à-dire qui serait le levier économie d'énergie, qui est aujourd'hui ce qui tire le plus le marché. Mais nous, on le sait, il faut aussi… c'est ce qu'on, d'ailleurs, c'est là où on accompagne notre réseau en leur disant… Des fois, on dit, écoutez, on a fait par exemple un atelier de formation pour les préparer à savoir-faire des cheminées pierres avec des agencements pour les nouveaux qui n'ont pas ce savoir-faire-là. Parce qu'aujourd'hui, ça leur paraît incongru. Ils disent, mais attendez, moi, j'ai mon carnet de commandes plein, je pose des poêles à bois, c'est facile, c'est rapide. On dit, oui, mais ce ne sera pas toujours comme ça. Donc, il faut que vous développez pas mal de compétences parce que vous verrez que peut-être qu'au mois d'avril, vous serez content de faire un projet compliqué avec de l'agencement. Donc ça, c'est un deuxième thème. Après celui de la disponibilité produit, on a la chance d'avoir, nous, du stock, d'avoir bien préparé la chaîne. Malgré les tensions, c'est extrêmement dur pour nous, mais on arrive à livrer. D'ailleurs, parce que notre modèle, ça a été de dire, nos concessionnaires, parce qu'on parlait du contrat de concession, on fait avec un avocat, vous pouvez mettre tout ce qu'il y a, tout ce que vous voulez dans un contrat. Si votre concessionnaire, au bout d'un moment, il n'est pas content, il s'en va. Et donc, en fait, la question est de savoir quelle est notre valeur ajoutée, mais tout au long de la relation avec ce concessionnaire. C'est-à-dire que au départ, on a une énorme valeur ajoutée parce qu'on lui apprend tout, il y connaît rien. Mais une fois qu'il a ce savoir-faire, on ne peut pas lui dire « Ah, mais souviens-toi, il y a 10 ans, tu ne connaissais rien, tu devrais nous remercier encore. » Non, il faut qu'on en amène encore plus parce que nous, notre concessionnaire, il peut très bien se dire « Je dépose l'enseigne Turbofonte, je m'appelle tout feu, tout flamme, j'achète différentes marques. » Donc, la question est toujours de se dire « Qu'est-ce qu'on lui apporte au quotidien ?» Donc, une des notions, c'était le stock. On lui a dit « Vous ne stockez pas, c'est nous qui stockons et on sait vous livrer sous 48 heures. » Ça nous a permis… On a mis ça en place il y a 6 ans et ça nous a permis de amener encore un service en plus. Du coup, ça nous a amené à stocker plus. Donc, du coup, ça a été un avantage sur cette séquence-là. Et ensuite, c'est ce dont parlait Sylvain tout à l'heure, c'est-à-dire on s'aperçoit qu'il faut aussi qu'on accompagne sur plein de domaines. Par exemple, aujourd'hui, leur sujet, ce n'est pas de trouver des clients et de vendre. C'est de gérer les projets, de faire des visites techniques et d'installer. Donc, par exemple, on a recruté un chargé de recrutement qui, justement, recrute pour eux parce que, par exemple, un, ils ne savent pas le faire. Deux, ils ont encore moins le temps qu'avant. Donc, c'est lui qui passe les annonces. En plus, les annonces, aujourd'hui, il faut appeler dans les 2 heures. C'est fini. Là, on attendait la fin de la semaine, le vendredi, pour dire qu'est-ce que j'ai comme candidat, je vais les appeler. C'est vrai aussi en parler de l'animation parce que, par exemple, on s'aperçoit qu'eux, souvent, sont dans la difficulté d'accompagner les collaborateurs qui les rejoignent. Parce qu'ils n'ont pas le temps, en fait. Donc, un technicien, aujourd'hui, on sait l'intégrer. On l'intègre via notre… Mais aujourd'hui, si on doit chercher tous les leviers, on doit s'améliorer. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut qu'on fasse plus de formation sur leur site. Parce que rapidement, c'est bien, je vous l'envoie, vous le formez, mais pas trop longtemps, s'il vous plaît, parce que ça me coûte cher et j'ai envie qu'il soit opérationnel. Donc là, on déploie plus. Là, on a fait 2 recrutements. Pour que juste il y ait plus d'animation, plus d'accompagnement, des fois aider même le concessionnaire qui avait une toute petite structure, où là, il va devoir gérer plus de flux d'informations, comment les gérer. Donc voilà, c'est tout ça où on rentre dans cette notion d'accompagnement, où il faut que le concessionnaire, il dise, bon, ben, il m'apporte tout ça, finalement, il y a 30% de ma croissance que je dois grâce à Turbofonte.
Sylvain, il semble que là, et c'était le cas, ce que j'ai ressenti lors de l'écriture du papier, c'est qu'il y a quand même une vraie anticipation de l'enseigne, globalement.
Oui, globalement, il y a… Oui, puis on le ressent là dans les échanges, en fait. Hein. On ressent que c'est une enseigne qui est dans l'anticipation et qui se projette. Et notamment, oui, les formations raccourcies vis-à-vis des collaborateurs, qui est un sujet, le sujet RH, qui est un sujet… qu'il faut prendre à bras-le-corps dans les enseignes, parce que la pénurie de main-d'œuvre sur des métiers techniques, elle est extrêmement lourde. Alors, je le vois dans des enseignes qui vont plutôt se dire, bon, bah, en gros, il n'y a plus personne sur le marché, et puis d'autres qui se disent comment on redonne de l'attractivité, on prend la main, on est plus réactif, et donc, à un moment donné, je transforme le problème en solution, ou j'essaye de le faire. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on le ressent dans les échanges. C'est important parce qu'en fait, la répartition des rôles entre le franchisé ou le concessionnaire, peu importe, et la tête de réseau est en train d'évoluer. Et puis, la manière dont ça s'interface va de plus en plus vite. C'est-à-dire, le rôle du franchiseur, c'est d'être, à un moment donné, d'écouter les besoins de ses franchisés et puis d'être hyper réactif, hyper agile pour apporter un maximum de solutions. On l'a vu sur les réseaux sociaux, il faut prendre la main. On le voit sur le recrutement, la formation, l'intégration, où il faut prendre la main pour pouvoir, à un moment donné, dégager du temps à ses adhérents. Parce qu'en fait, le métier sur le terrain, il n'est pas simple tous les jours. Et si vous devez en plus, le vendredi, consacrer votre demi-journée à relancer des CV alors que c'est trop tard, bah, en fait, ça ne marche plus. Donc, ça pose la question en fait, de qui fait quoi dans le dispositif et puis comment en fait, la tête de réseau joue ce qui est vraiment son métier, c'est-à-dire apporter de la simplicité et apporter des solutions en fait à ses concessionnaires pour qu'ils puissent se consacrer à leurs clients, à leurs installations et puis au développement de leur chiffre d'affaires.
Marc, un petit mot pour conclure?
Oui, on l'a vu sur deux éléments. Par exemple, pendant la crise sanitaire, on a mis en place un protocole et on s'est dit, en fait, ils en avaient énormément besoin parce qu'ils ne savaient pas trop. Ça les rassurait de se dire « je suis le protocole de Turbofonte, je suis dans les clous, parce qu'ils ne savaient pas le risque qu'ils prenaient vis-à-vis de leurs collaborateurs. Et on s'est dit, c'est notre rôle, en fait. Sur les réseaux sociaux, on a parlé vendredi dernier, parce qu'on a recruté un chargé de communication, et justement, là, qui est en train de reprendre la main. Alors, c'était un sujet que je maîtrisais mal, parce que je suis pas trop là sur ces plateformes-là. Mais justement, ils m'ont expliqué en com à quel point c'était important de répondre. Nos concessionnaires ne répondent pas. Ils ne savent pas où s'ils interviennent. Et ils me disent, ce n'est pas toujours dans le meilleur style. Ils font ça un peu crevé à 19h30, un peu agacé par la journée. Et ce n'est pas toujours très diplomatique. Et du coup, c'est vrai que ça, nous ici, dans le calme et la volupté, on est plus à même de répondre avec un vrai savoir-faire dessus. Mais ce qui est un peu plus d'ingérence, encore un peu, si je dois sortir un gros mot.
Après, c'est un sujet qui est important, qui est en fait jusqu'où on va. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'image de marque, le développement du chiffre. Et puis après, il y a l'organisation de tout cela d'un point de vue juridique. Mais comme vous le dites très bien, hein, à un moment donné, le vendredi soir à 19h30, si je dois répondre à des commentaires sur les réseaux sociaux, je le fais pas bien. Et puis on se rend compte qu'aujourd'hui la communication sur les réseaux sociaux, ça devient un métier, et qu'il y a des community managers qui sont de véritables stars dans les entreprises, parce qu'elles arrivent à créer et de l'image, et une belle image positive, et de la visibilité. Et donc c'est des métiers en fait qui s'improvisent plus. Donc on ne peut plus les laisser en fait à nos adhérents. On est obligé de les remonter au niveau de la tête de réseau. Après, la question, c'est comment on organise ça pour que ce soit des structures de prestation de services voulues et demandées par les franchisés, qui restent des indépendants et qui doivent pouvoir aussi choisir et pas qu'on leur impose tout de A à Z. Donc ça c'est des questions, mais d'abord il y a la question qui est purement terrain, opérationnelle, qui est que oui, c'est un besoin, c'est nécessaire, si je ne le fais pas, c'est ma marque qui est pénalisée. Donc je dois le mettre en œuvre, et après c'est comment je le mets en œuvre.
Très bien.
Pour ajouter, parce que c'est un sujet qui me passionne, parce qu'il faut déjà que ce soit une réalité du terrain, la satisfaction.
Exactement.
Pour parler, par exemple, on a eu le cas à Marseille il y a 2 ans et demi, quelqu'un qui a eu des problèmes de santé, qui a fait une mauvaise installation, qui a ensuite fermé. C'est la seule fermeture qu'on ait eue là, sur les dernières années. Et, rien ne nous y est obligé, mais on a repris 30 chantiers qu'on a refait intégralement. Parce qu'aujourd'hui, alors légalement, on pouvait se cacher derrière nos documents qui disaient que ça restait un indépendant avec son numéro de sirène et que nous, on était juste une tête de réseau. Et on s'est dit, mais en termes d'image, aujourd'hui, ce qu'on construit et ce qu'on veut construire encore un peu plus, c'est une relation de confiance avec le client sur la marque. Donc, il faut, et c'est pour ça que c'est important, une cohérence totale et justement sur la mise en œuvre et le SAV. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de formations et en même temps on est strict. Et pas hésiter à intervenir, parce que là, le community manager, il ne peut pas faire de miracle s'il y a une vraie insatisfaction. Et ça, je le conseille à toutes les têtes de réseau, parce que ce n'est pas évident, ça nous a coûté 220 000 euros. On a dû admettre que c'était aussi notre responsabilité, parce qu'on avait un peu de mal avec ce concessionnaire, on s'était déjà vu 2-3 fois et ça fait partie du risque, mais qu'il faut, l'assumer parce que c'est notre raison d'être.
Mais c'est pour ça, si on reprend le début de nos échanges, c'est pour ça que je pense que sur le DIP, vous avez un sujet de forme, parce qu'en fait, tout ce que vous dites là, c'est des choses qui ne ressortent pas dans ce document-là, et c'est dommage. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout écrire ça, mais en fait, vos valeurs, la manière dont vous concevez la relation entre vos concessionnaires et vous, le rôle de la tête de réseau, votre histoire aussi avec des ouvertures mais très peu de fermetures, c'est des éléments qui sont des vrais arguments. Et aujourd'hui, on rentre quand même dans une période où les candidats ont besoin de réassurance sur tout ce qu'on va leur laisser. Il faut qu'ils comprennent vraiment le projet et puis qu'ils comprennent quels sont les éléments qui font que ça a du sens de rentrer chez vous et de devenir entrepreneur avec vous. Donc, ça vaut la peine, je pense, de refaire une passe sur votre DIP. Et je pense que vous avez tout à fait raison de travailler vos manuels opératoires, parce que tout ça, c'est du savoir-faire. Voilà.
Merci à tous les deux. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode dédié cette fois-ci à l'enseigne Depiltech. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt.
Réseau à la une.
Réseau à la une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.